Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Ici Tristan Brunet-Dupont et
Jason Lévesque.
Salut Jason.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va bien toi?
C'est la canicule.
C'est la canicule.
Et oui, on est sur la Côte-Nord, il fait 24. Alors ici, c'est une canicule.
Effectivement.
Fait chaud.
Avec l'humidex, on atteignait 30 degrés.
28, 30 dans ce coin-là. Hein? Ouais, c'est ça. C'est,
ah non, c'est lourd. Et puis pour nos amis de la France, j'ai lu ce matin qu'il y avait comme 5 fois plus de canicules en France depuis les années 2000.
Oui, ça a augmenté énormément les températures extrêmes.
Mm-hmm, mais il y a même des 40-50 degrés là, à Paris, là. Tout ça. Écoute, on va rester...
On va garder notre température ici.
Exactement, Exactement, le Québec, le Nord. Ici, on ne veut pas se vanter, là, mais on va se le dire. On dort un petit peu.
Climatiseur, c'est d'ouvrir une fenêtre.
Ben, c'est ça,
et
exact.
Et voilà, c'est climatisé.
Mais bon, on ne peut pas s'empêcher de dire que le réchauffement de la planète a bel et bien lieu. Hein? Ça, c'est plus une question, là, de m'emmener.
Non, c'est ça. C'est juste maintenant, on débat des causes et des solutions.
Exact.
Le débat plus du fait que ça existe.
Non, c'est ça. Ben ouais. Ils vont falloir s'habituer à avoir chaud.
C'est ça!
Jason, tu nous présentes un sujet aujourd'hui. Est-ce que tu le dévoiles?
Ben,
attends,
je veux faire une mise en contexte parce que nous, on a une expression qu'on utilise d'une manière un peu à la légère. Mais si on va aux États-Unis, c'est une expression que le président américain affectionne particulièrement quand des gens commencent à l'accuser de quoi que ce soit. Là, on a parlé de collusion avec la Russie. Là, il y a un nouveau livre de John Bolton, un ancien conseiller à la Sécurité nationale, qui l'accuse d'avoir tenté de convaincre la Chine de l'aider à être réélu en 2020, les élections qui s'en viennent bientôt. Et quand il y a des accusations comme ça qui sont contre lui, il va dire, il y a fake news, qu'il aime beaucoup comme expression, mais il va aussi dire witch hunt.
Il utilise
cette expression-là. Et aux États-Unis, l'expression « witch hunt », que nous, on utilise une chasse aux sorcières, on utilise ça un peu à la légère. Mais aux États-Unis, cette expression-là, elle est très importante.
Okay.
Très, très, très importante. Parce que ça nous ramène en 1691-92, dans cette période-là, où il y a eu le fameux procès des sorcières de Salem.
Ah ouais, okay, je connais pas ça pas
en
tout.
Alors, en fait, il y a eu en Europe, pendant de très nombreuses années, même plusieurs siècles, il y en a eu des chasses aux sorcières, il y a eu des procès, il y a eu, bon, on accusait les femmes principalement, mais il y a eu beaucoup d'hommes aussi, mais les femmes principalement, de faire de la sorcellerie.
OK.
Pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons, des fois.
Ça, c'est depuis l'époque médiévale.
Oui, ça date d'il y a très, très, très longtemps. Là. Écoute, j'ai pas j'essaie de retrouver rapidement dans mes notes, je n'avais pas vraiment l'intention d'aborder le sujet. Entre la fin du 14e siècle et la fin du 18e siècle en Europe,
okay,
il y a eu des chasses aux sorcières.
OK, ouais.
Il y en a eu beaucoup.
Mm-hmm.
Il y a eu beaucoup de femmes accusées, beaucoup de femmes qui ont été torturées, des femmes qui ont dû faire des confessions, ils ont dû se confesser comme étant des sorcières parce que la torture, à un moment donné, faisait qu'ils finissaient par avouer. C'était,
c'était pas vrai.
Absolument.
Pour arrêter la torture, ouais.
Il y en a eu beaucoup.
Okay.
Mais aux États-Unis, il y en a eu une qui a retenu l'attention, mais dès qu'on parle de chasse aux sorcières, on fait souvent référence à celle-là. Malgré tout ce qui a pu se passer ailleurs sur la planète, c'est celle-là souvent à laquelle on fait référence.
C'est l'origine de cette phrase populaire aux États-Unis.
Eh oui, que M. Donald Trump utilise à outrance dès que quelqu'un l'accuse de quoi que ce soit, même s'il y a des preuves à l'appui,
il
va toujours dire que c'est une chasse aux sorcières. Il va sortir l'expression « witch hunt ».
Exact.
Il va écrire en majuscule sur Twitter actuellement.
Exactement, mais ça veut dire que tu parles de 1600...
1691 et 1692.
Okay.
C'est durant cette période-là où ça s'est passé là, principalement.
C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui?
Absolument, on va parler. On va refaire un survol parce qu'il y a du stock là-dessus. Là. On pourrait faire une série complète là, d'une saison juste sur les sorcières de Salem.
Okay.
Mais on va faire un survol rapide de pourquoi ça a marqué les États-Unis, cet événement-là, ces procès-là. Ont forgé un peu les États-Unis modernes.
Ah ouais, OK.
Alors, c'est à ce point-là. Absolument.
C'est peut-être, ça a peut-être influencé leur imagination et leur côté un peu, comment dire, pas crédule, mais tu sais, qui croit un peu plus à...
Ben, en fait, c'est plutôt le côté puritain.
Okay.
La Britannique qui était encore présent, parce qu'en 1692, c'était encore des colonies britanniques.
Oui.
Et le côté puritain britannique est encore très présent.
Ah.
Et le puritanisme a un peu une raison, de pas une raison, mais était un peu une cause de ces fameuses chasses aux sorcières. Là.
Puritanisme, j'imagine que ça parle de pureté là-dedans.
Ouais, c'est ça. Le puritanisme, là, c'est ça. C'est la pureté, la religion qui est très présente, très forte. Okay. Une grosse emprise, que tout ce qui sort un petit peu des normes ou du cadre religieux très là, pratiquant devient malsain, devient méchant et souvent identifié à Satan, okay, au diable, à tout ça. Donc, le côté puritain était très présent. Il y a eu comme un moment donné là, une cassure à ce niveau-là et ça tire un peu ses origines de cette période-là. Okay. À Salem. Alors, rapidement, là, on va faire un survol des événements.
Ben oui, prenons
s'est passé
la
à
machine
Salem.
À voyager dans
et
le temps.
Et voilà. Pout, 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 qui. On voilà. Est rendu. En 1692, Salem Village. Salem Village, qui est maintenant appelé Danvers. D-A-N-V-E-R-S. Le, pas Denver, là, le Denver qu'on connaît, mais c'est une petite communauté qui s'appelle Danvers. Okay. C'est au Massachusetts, aux États-Unis. Et c'est pas la ville de Salem. On dit les sorcières de Salem. Ouais. C'est les sorcières de Salem Village, okay, qui est une autre communauté. Salem Town, ou Salem, c'était une ville portuaire qui était voisine de Salem Village. Et le procès s'est tenu à Salem, mais les sorcières et toutes les accusations et tout ça, ça s'est passé à Salem Village, qui est voisin.
OK.
La ville portuaire, c'était la ville riche, hein, parce qu'en 1692, toute l'économie passait par les voies maritimes.
Ah,
nos ouais, villes au Québec, Montréal, Québec, c'est des villes sur le fleuve, parce qu'on était sur le bord d'un cours d'eau, on a fondé nos villes là, parce que les matériaux arrivaient là, les denrées arrivaient là. C'est là qu'on a fondé nos villes majeures, et c'est partout comme ça dans le monde.
Mm-hmm,
quand il y a une colonisation, le train, le moteur à explosion, ça n'existait pas.
Mm-hmm.
Donc, puis même si on va en dehors du fleuve Saint-Laurent, on peut même aller, à Sherbrooke, par exemple. C'est à la croisée de la rivière Saint-François et de la rivière Magog, parce qu'on avait des denrées qui pouvaient arriver par là aussi. Alors, nos villes ont principalement été fondées, ou nos villes importantes ont été fondées près des cours d'eau. Salem Town était une ville portuaire, donc les commerçants, les marchands, les riches habitaient là. Un peu plus loin, à l'intérieur des terres, il y avait Salem Village, qui était voisin, mais qui était plus côté agriculture, côté... Les gens travaillaient dans le bois, travaillaient dans les champs. On était un peu plus pauvres, c'était des paysans.
Puis c'est sûr qu'on était à une époque aussi quand même avant le terroir, là, c'est
juste. Oui, absolument.
C'était quand même, il y avait peut-être la richesse un peu qui circulait à bord des navires, mais ça restait assez rustique. Là,
comme oui, absolument. Le problème qu'on avait du côté de Salem Village et de Salem également, la ville portuaire, on n'avait plus vraiment de gouvernement organisé.
Ah ouais.
Et on était un peu isolés à cause des Autochtones, à cause des Amérindiens qui, tout le tour, attaquaient régulièrement les installations britanniques qui étaient isolées. On faisait partie de ça. Ah. Là, si vous voulez vous donner une idée, là, on est tout près de Boston. Okay. On est dans le secteur de Boston.
Okay,
la ville à identifier dans ce secteur-là, c'est d'accord, Boston.
C'est quand même près d'ici, donc.
Oui, c'est pas très loin. Oui, absolument. Boston, que j'ai visité souvent Boston. Mmh. Magnifique ville.
Oui,
là,
c'est
magnifique.
J'approuve, je suis allé aussi.
C'est très beau. On sent l'histoire à Boston. C'est le berceau de l'indépendance américaine, Boston. Exact. Alors, on a cette ville-là, qui est Salem. Le village à côté de Salem, également, mais qui porte le même nom, mais le village. Et on veut combiner les deux, ça se fait pas. Bon, on a certaines problématiques au niveau organisationnel, au niveau politique. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de gouvernement en place, il n'y a plus de cours, il n'y a plus de juges, il n'y a plus de juristes. Il n'y a à peu près plus rien.
Mon Dieu, ça va pas.
La milice interne pour se défendre, c'est des paysans qu'on engage. Donc, quand il y a des attaques d'Amérindiens, c'est vraiment les habitants du village. Il n'y a pas de militaires comme tel, il n'y a pas de police. On arme les paysans, on dit hey, « allez défendre le village ». Alors, c'est un peu le contexte historique là, que je vous donne. Dans tout ça, la religion a toujours sa place, par contre. Donc là, il n'y a plus de politique. Alors, la religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit le vide, habituellement. Mm-hmm. Quand on enlève le côté politique, habituellement, à cette époque-là, la religion va prendre la place. Là, on se retrouve dans une situation où il y a un pasteur très puissant, le pasteur Samuel Parris, qui est là et qui est le pasteur à Salem Village. Okay. Le pasteur a une fille qui est âgée de 9 ans et une nièce âgée de 11 ans. On parle de Betty Parris, qui est la fille, et de Abigail Williams, qui est la nièce. Et ces deux petites filles-là, avec une amie, aiment ça faire des séances de spiritisme. Tu sais, quand on est jeune, là, on va parler aux esprits Tristan.
Oui.
Alors, ils aiment ça faire ça. Ils s'amusent. C'est un jeu pour elles. Le problème, c'est qu'elles demandent à une des servantes de venir les conseiller. Oh. Une des servantes qui est une esclave. okay. grosso modo, là, à devenir les conseillers. Elle est originaire de la Barbade, si je me trompe pas. Voilà, et elle leur demande, les filles demandent, « Hey, est-ce que tu sais comment faire pour appeler les esprits? Est-ce que tu sais comment faire pour voir des fantômes, pour parler aux morts? » Et la servante joue le jeu.
Okay.
Elle dit oui, et okay. elle leur donne des trucs.
D'accord.
Alors là, on se retrouve avec une situation où des petites filles qui jouent un jeu, un peu le Ouija d'aujourd'hui, ouais. mettons. Là. Et on a une servante qui vient leur dire comment faire pour contacter les esprits. Alors là, ça, déjà là, on a la recette pas pire.
Ben oui,
là,
c'est ça, pour que,
Le trouble commence.
Exactement.
Parce que là, on est dans une période extrêmement instable. Je vous l'ai dit, il n'y a plus de gouvernement, il y a de la pauvreté, c'est des paysans, il y a des attaques amérindiennes au travers de tout ça. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Et là, on a les petites filles qui s'amusent à faire semblant d'appeler les morts. Et là, la servante vient les aider. Pas longtemps après, les trois petites filles, il y a Anne Potman aussi là, qui fait partie des petites filles, commencent à avoir des comportements étranges. Commence à avoir des convulsions. Commence à parler des langages qu'ils ne devraient pas connaître.
Ah ouais, à ce point-là.
Ils parlent en langue. On appelait ça comme ça à l'époque. Ils parlent dans des langues oubliées ou des langues incompréhensibles. Ont des hallucinations, ont des drôles de comportements.
OK, OK.
Alors là, on presse les petites filles. Et là, évidemment, c'est dans les trois, il y a la fille du révérend, du pasteur, M. Samuel Paris, là, qui a beaucoup de pouvoir, lui, sur le village. Étant donné qu'il n'y a plus de gouvernement, les gens se réfèrent à lui comme personne en autorité. Et là, sa fille fait partie des trois qui ont des drôles de comportements qui vont pas bien du tout. Commence à les questionner. Et là, on commence à inclure, dans les questions, on commence à parler de Satan, de sorcellerie. On commence à parler de choses paranormales, de spiritisme. Et là, les petites filles, un peu pris, veulent pas dire, hey, là, il y a 9 et 11 ans, là, veulent pas le dire, eux autres, là, qui ont fait des affaires bizarres, surtout pas à leur papa, papa qui, lui, c'est le pasteur, là.
Ben oui, c'est ça.
Pas, ben papa, on a essayé de parler avec les morts. Non, on peut pas dire ça, il va être fâché. Alors, elles accusent la servante.
Ah non!
De les avoir ensorcelés.
Ah non.
Et c'est là que ça commence.
OK, oui.
Et à partir de là, il y a eu une traînée de poudre qui s'est installée, là. Mais vraiment, on s'est mis à voir des sorcières partout.
Ah ouais.
On s'est mis à accuser tout le monde.
Parce que là, c'est ça, on pourrait commencer à douter, à accuser. On pense que les servantes pourraient peut-être inciter les jeunes à se donner à des activités paranormales. Pour essayer d'invoquer ou de parler avec des morts et tout ça. Donc, non, je peux comprendre l'inquiétude à l'époque du village de mon Dieu, nos servantes essaient de monter nos enfants à parler au diable et tout ça.
Ben, c'est ça. Puis là, il faut le contexte politique, mais il y a le contexte aussi environnemental. C'est des cultivateurs. On est en train de défricher des nouvelles terres. On est en train de coloniser des nouvelles terres. Entre 1691 et 1692, parce que là, on est en février 1692, donc on est encore en plein cœur de l'hiver, c'est un hiver épouvantable.
OK.
Épouvantable. Les cultures sont détruites, on manque de nourriture, la chasse va pas bien, c'est pas un bon hiver, c'est extrêmement froid. Là. C'est un hiver qui est hors du commun. En plus de tout ça, ben là, on a les petites filles qui commencent à avoir des drôles de comportements, on a les Amérindiens qui sont à la porte puis qui font des attaques sporadiques. Vraiment, là, ça va pas bien dans la tête des gens. Fait que là, on a comme trouvé un échappatoire à tout ça, une explication à tout ça.
Ah, OK, ouais.
Pourquoi ça va pas bien les cultures? Pourquoi ça va pas bien la chasse? Pourquoi les Amérindiens arrêtent pas de nous attaquer?
Comme une sorte de malédiction.
Et voilà, il y a des sorcières dans la place.
Ah, ouais.
Alors, ça commence avec la madame Antillaise, Tituba, qui est la servante de la famille Paris, qui est la première à être pointée du doigt.
OK.
C'est elle qui nous a ensorcelés, là. Alors, on l'accuse. Et on commence à accuser comme ça, tranquillement, pas vite, des gens. Au départ, ça commence vraiment avec les petites filles. Les petites filles, on leur dit, ben là, vous avez accusé Tituba, mais là, est-ce qu'il y en avait d'autres, madame?
Ouais, OK, ouais.
Ah oui, on a vu Tituba qui faisait des réunions la nuit avec une telle. Ah, puis là, on les voyait, là, en arrière de la chaîne, là, puis ils jasaient, là, puis il s'est passé des affaires. Les petites filles embarquent dans leur imaginaire comme ça et commencent à inventer des histoires et à impliquer d'autres femmes du village.
Et la comme tu le disais, le temps et l'époque, l'économie, tout allait tellement mal qu'on sent qu'il y avait une sorte de défoulement, un défouloir de la part des citoyens. On voulait exprimer notre haine et accuser des gens. Tu sais, quand ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien, là, tu sais, comme
on a besoin d'un bouc émissaire.
Ouais.
On a besoin d'une raison.
Exactement,
on veut expliquer pourquoi ça va pas bien. Mmh. Et là, on avait la raison idéale. ça l'a donné de même. Ça avait été là, un été exceptionnel, puis que les récoltes étaient abondantes, puis que les Amérindiens attaquaient plus, puis que tout allait bien, peut-être que ça se serait déroulé autrement. Mais là, on avait ça, là, c'était comme... Ça venait là, sur le dessus du reste, là, puis c'était trop. Là.
Ah, c'est ça. Nous sommes maudits, les voilà. Sorcières de Salem nous ont donné une malédiction, nous allons tous mourir de faim et se faire tuer par les...
Et voilà. Alors, au fur et à mesure que les petites filles dénoncent des femmes, leurs symptômes, eux, diminuent pas.
Ah, OK.
Et là, on consulte des médecins. Les médecins, ils sont pas capables de déceler qu'est-ce qui se passe avec les petites filles. Pourquoi sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu, et là, il y a vraiment des symptômes physiologiques.
Donc là. Là, on parle vraiment quand même d'un phénomène étrange.
Oui, oui, absolument, parce que les petites filles ont quand même des... Ils ont des convulsions, là.
C'est ça.
Et on n'est pas capable d'identifier la cause. Alors, plus les petites filles ont des symptômes, plus on les pousse à dénoncer.
Mm-hmm.
Et ça devient là, une espèce de spirale infernale, là, où on n'arrête pas de les pousser, les petites filles, pour qu'ils donnent des noms, pour qu'ils donnent d'autres noms, pour qu'ils donnent d'autres noms. Et on va le voir là, tantôt, quand on va y aller plus dans le côté pratico-pratique des explications, mais ça fait peut-être l'affaire de certaines personnes aussi.
Ah ouais. Hein?
Des fois, là, ouais, mais elle, t'es sûr que tu l'as pas vue, elle? Là?
Ben,
non,
c'est ça.
Mais t'es sûr que tu l'as pas vue? Ben, peut-être. Peut-être quoi, là? Ben, je pense que je l'ai vue. Ah ouais! On va aller la pogner. Fait qu'à un moment donné, on commence à implanter dans la tête des petites filles aussi des noms, des idées, des événements, des choses qui vont faire en sorte qu'on va commencer à accuser des dames d'avoir été pratiquer la sorcellerie. Toujours en partant un peu de la servante antillaise, mais après ça, à un moment donné, elle, là, ça n'a même plus rapport. Là, on accuse n'importe
quoi. Ben, ça pourrait être quasiment...
La porte est ouverte.
Toutes les raisons pour être bonnes, là, partant d'une voisine qui prend trop de terrain ou qui est pas gentille, à peut-être la jalousie.
Bon, ils ont fait de quoi de pas fin à ma famille.
Exactement.
Elle me doit de l'argent. Elle, lui, ben, c'est ça. Fait que toutes les raisons deviennent bonnes à un moment donné.
Pour s'accuser l'un et l'autre, là, pour trouver des... c'est pour manipuler des enfants de 9-10 ans afin de dénoncer des personnes qu'on aime moins pour qu'ils, après ça, pour les sentences et tout ça, on y reviendra.
Je vais vous donner, parce qu'en fait, là, il y a eu beaucoup d'accusés, il y a eu beaucoup de condamnations, il y a eu beaucoup d'exécutions également. Alors, on va y aller, là, vraiment, là, je vais te dresser un portrait, puis ça fait froid dans le dos un peu, là. Quand on pense que ça part de petites filles qui veulent pas se faire prendre à avoir joué à un jeu interdit par leur papa ou leur révérend, et qu'on arrive à tout ça... Ça fait boule de neige, mais de manière extrêmement rapide. Là. Et vraiment, là, ça a été une hystérie collective. Là, parce qu'il y en a beaucoup qui y croyaient. Il y en a qui s'étaient intéressés, là, leur affaire. Puis ils disaient, oh, on va me débarrasser de ma femme. Moi, ils m'ont dit, hey, je pense que ma femme est possédée aussi. Pas besoin de divorcer.
Tu parles d'hystérie collective. Je peux pas m'empêcher de faire un comparatif avec les papiers de toilette
au début
de la COVID-19. On n'avait aucune raison de s'inquiéter, là, mais tout le monde est allé s'acheter des tonnes de papiers de toilette.
Après ça, il y a eu la farine. Après ça, il y a eu la levure. Après ça, il y a eu plein de phénomènes comme ça.
Une hystérie collective, comme tu dis, c'est que... Ça n'a pas de bon sens, c'est comme on s'emporte et puis tout, on finit par y croire alors qu'on n'a pas vraiment de raison crédible, là, c'est fou.
Alors, au départ, on a Tituba. Tituba qui est la servante, qui est la première accusée ou la première personne pointée du doigt. Et à elle vont s'ajouter, en fait, les trois sorcières originales, si on veut. On a Sarah Good et Sarah Osborne. Et Tituba, c'est les premières. Les trois premières. Madame Good est une mendiante. Sarah Good, c'est une mendiante, fille déshéritée d'une aubergiste française qui s'était donné la mort quand Sarah était adolescente. Une femme louche, elle murmure quand on lui donne de la nourriture. Elle est bizarre,
ouais,
la madame. T'sais, elle n'a pas de maison, puis bon, sa mère l'a déshéritée. Pis...
Mm-hmm.
Fait qu'elle est un peu étrange. Fait qu'elle aussi, là, on la met dans le lot. Les petites filles l'ont accusée parce qu'elle est déjà elle est bizarre, elle. Et Sarah, ça, c'était Sarah Good. Sarah Osborne, elle, c'est une vieille femme. Elle est alitée. Donc, elle est très malade.
Okay.
Elle peut plus se déplacer. Là. Elle est rendue là, en mobilité extrêmement réduite. Elle a suscité la réprobation générale du village quand elle a volé l'héritage des enfants de son premier mari et elle l'a remis à son nouvel époux. Fait que dans le fond, ils ont comme profité des enfants qui auraient dû hériter du papa qui était mort, ont pris l'argent et s'en sont servis à leur propre fin. Les enfants n'ont rien vu, n'ont rien eu de cet argent-là. Alors déjà, les gens ils disent « c'est une pas fine,
c'est
une pas gentille,
exactement.
Madame. » Alors, officiellement, le 1er mars 1692, c'est très rapide, là, on est en février, on est rendu en mars, déjà, on accuse de sorcellerie ces trois femmes-là et on les met en prison.
Ah ouais, OK.
Ils sont emprisonnés les trois, même la dame là, qui est alitée, qui est plus mobile, on la met en prison. On voit que la crise d'hystérie, les crises d'hystérie se poursuivent malgré l'arrestation. Les trois petites filles, dans le fond, continuent à avoir des symptômes étranges. Alors là, c'est là qu'on commence à les pousser. Donc après l'arrestation, la mise en prison, le 1er mars, des trois femmes originales, on se dit, ben ça n'a pas réglé le problème, il doit en avoir d'autres.
Ah ouais.
Alors là, on commence à créer une liste de noms très rapide. On se retrouve avec un problème. Les prisons sont pleines.
Ah,
on a tellement emprisonné de gens que les prisons sont pleines.
Ben voyons donc.
Et il n'y a pas de gouvernement, Tristan, à Salem Village.
Ah, c'est ça, ça va.
Alors, on peut pas faire de procès.
Ça va plutôt mal.
Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas personne.
Ça continue mal, ils vont enfermer 70% des gens.
C'était bien parti pour ça. Alors, les prisons sont remplies et le problème surgit sans forme de gouvernement. On ne peut pas faire de procès.
OK.
Il n'y a pas d'officiel du gouvernement sur place qui peut faire un procès.
Alors
là, on va faire appel au gouverneur, le gouverneur William Phipps, qui arrive et il institue une cour.
Okay.
On va faire un procès, on est là, on a des officiels du gouvernement, on va pouvoir faire un procès en bonne et due forme et juger de ces personnes-là. Alors, il fait le procès, il institue la cour de, ils appellent ça la Court of Hear and Determine, to Hear and Determine, entendre et décider. Et ils vont faire des procès aux gens qui ont été accusés de sorcellerie. Mais là, on est rendu à un point où tout le monde marche sur la pointe des pieds. Là. C'est comme personne ne veut éternuer quand c'est la pleine lune, parce que quand tu éternues quand c'est la pleine lune, tu pourrais te faire accuser de sorcellerie. Si tu pètes au magasin, « Oh, pour moi, lui, il s'est fait ensorceler. »
C'est un comportement étrange.
Et voilà, dès qu'on sort de la norme ou qu'on déplaît à quelqu'un, je pense qu'il y a eu un épisode des Simpsons d'Halloween, entre autres, là, justement, un village comme ça, où tout le monde se met à accuser tout le monde de sorcellerie. Finalement, tout le monde est coupable de sorcellerie dans le village. On est comme ça. Tout le monde a peur. Tu me déplais, Tristan, je t'aime pas.
Ah, c'est ça.
Parce que ton terrain, je trouve que tu respectes pas la ligne de séparation, là. Ben, je vais t'accuser de sorcellerie. Exactement. Tu vas te faire arrêter, c'est à peu près sûr. On a juste à dire, c'est un sorcier. C'est fini, c'est réglé. On prend la personne puis on l'envoie en prison. Alors, on se retrouve dans cette situation-là. Alors là, on arrive à un point où on va faire des procès, où on va formellement, pour ce que ça vaut, là, on parle de sorcellerie quand même, là, mais accuser des gens et déterminer est-ce que ces gens-là sont des sorcières ou non. Alors, on peut faire une petite pause?
Ben oui, excellent. Faisons une petite pause et puis après, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'on les a accusés? Parce que, tu sais, déjà là, se faire accuser de sorcellerie, tu sais, c'est comme, dans ma tête, c'est comme si on accusait quelqu'un d'être un loup-garou ou ben une créature, tu sais.
Ben absolument, c'est fantastique, là. Mais on est arrivé à un point où la pression était tellement forte sur ce village-là. Imagine, là, tu sors, tu sais pas si tu vas avoir de la nourriture. Tu sais pas s'il va y avoir une attaque soudaine d'Amérindiens qui vont venir là, saccager ton village. La chasse, ça marche pas. Il n'y a plus de nourriture nulle part. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus de force de l'ordre. C'est le chaos complet et total. Ils sont isolés, vraiment pris dans leur coin. Ça marche pas bien. Il y a des guerres de classe aussi entre le village riche qui est portuaire, le village de pauvres paysans. Ils veulent pas s'aider. On a voulu les annexer. Ça n'a pas fonctionné. Cette pression-là fait que ça marche plus. Ça marche plus. On arrive à un point où la folie collective prend le dessus sur le reste.
Ah, c'est ça. Oh, bon, ça, on est né dans la bonne époque.
Je pense que oui.
On va faire une courte pause et on revient tout de suite après. Restez là.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Les lutins élégants. Aux lutins élégants, les affaires bizarres, on aime bien, bien ça. Les lutins élégants.
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Aujourd'hui, Jason Lévesque nous parle des sorcières de Salem. On est en
92. Le 1er mars 1692, on procède à l'arrestation des trois premières sorcières de Salem. On a arrêté la servante antillaise Tituba, Madame Sarah Good et Sarah Osborne. On dit que ces trois femmes-là sont des sorcières, qu'elles ont un espèce de couvent là, maléfique et que les flammes complotent pour prendre l'esprit et ensorceler les enfants.
Ça. Parce que non seulement on les accuse de ça, mais il y a aussi une sorte de... Est-ce qu'on les accuse...
Ça va pas bien,
non,
là.
Non, c'est ça, mais est-ce qu'on les accuse...
Oui, ça peut être... on peut les, on, plusieurs historiens disent qu'on les accuse de l'hiver extrêmement rigoureux, de la perte des récoltes ou des... Bon, on sait que les récoltes iront pas bien à cause de l'hiver qui s'éternise. La chasse va pas bien à cause de l'hiver rigoureux. Donc, on les accuse d'à peu près tous les maux qui affectent Salem Village.
OK, oui, c'est ça.
Qui est pas Salem. On dit les sorcières de Salem, mais c'est les sorcières de Salem Village. Salem, c'est la ville portuaire qui est voisine de Salem Village où aura lieu le procès.
Okay.
Ou les procès. Mais Salem Village, c'est là que les sorcières habitaient. Donc, faut faire la distinction, c'est pas les sorcières de Salem,
ouais.
C'est les sorcières de Salem Village, mais Salem, c'est l'endroit où le gouverneur est allé s'installer, William Phipps est allé s'installer pour faire des procès.
OK, OK, d'accord.
Alors là, on va procéder justement au procès. Pendant l'été 1692, la cour est en session une fois par mois. Une seule accusée est relâchée après que les jeunes accusatrices se soient rétractées à son sujet. Mais au final, Tristan, au final, il y aura, écoute, 48 accusations. Là, on parle d'un petit village en 1692. Il n'y avait pas 8000 personnes dans le village. Là. 48 personnes sont accusées et il y en aura 22 d'exécutés sur les 48.
Oh my God!
Alors, c'est incroyable.
C'était une époque où on avait la... Je sais pas, c'était à cette époque-là, c'était la pendaison ou la lame là, qui tombe.
Ouais, non,
là.
C'était la pendaison dans ce cas-là. Dans les films ou dans les séries, souvent, on les voit sur un bûcher. Hein. On les brûle, les sorcières. Oui. C'est un peu une référence là, à Jeanne d'Arc, mais en réalité, à Salem, c'était la pendaison.
Ah ben, c'est une époque, tu sais, on le voit même avec dans le film Pirates des Caraïbes, tu sais, lors de la colonisation, que l'exécution par la pendaison, c'est fou à quel point... C'était, comme tu dis, on marchait sur les oeufs à cette époque-là. Là.
Oh oui.
C'est drette ça. Là. C'était pas très long là, que tu passais de un accusé à mort pendu.
Oh oui, ben absolument. Et les gens qui voulaient pas avouer, on les torturait, tout simplement.
Hmm.
On les torturait et ils finissaient par avouer à être des sorcières.
Oh là là.
Donc, on a eu 22 personnes qui ont été condamnées à mort. En fait, il y en a 19 qui ont été pendues. Il y en a une qui est morte en prison. Il y en a une qui a été noyée. J'ai pas l'histoire, malheureusement. Là. C'est Elizabeth Gilbert qui est morte noyée le 15 septembre 1692. Et un monsieur qui avait 80 ans, il a été, lui, accusé et il a refusé de répondre. Il a refusé de passer en cour. Alors, on l'a torturé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pendant 3 jours, l'homme de 80 ans était couché et on mettait des pierres sur sa poitrine. Et on en mettait une autre.
Oh my God.
Et une autre. Et à chaque fois, on disait, est-ce que tu vas, tu veux assister à ton procès? Tu vas te confesser? Tu vas venir devant le juge? Et il refusait. Alors, on ajoutait une pierre. Et pendant 3 jours, il a survécu à ce traitement-là. Ah, ouais. Et il a finalement décédé. Là. Imaginez 80 ans.
Oui.
On dit qu'il savait de toute façon comment ça allait se terminer. Alors, il a refusé de se prêter à la mascarade. Et il savait qu'il allait mourir de toute façon. Il allait finir pendu. Alors, faites ce que vous voulez, mais non, j'irai pas assister à mon procès parce que je vais être trouvé coupable de toute façon. Alors, je refuse d'assister à cette mascarade.
Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ont été...
En fait, on a au total 15 personnes qui se sont dit possédées ou qui ont posé des accusations. Il y a les 3 petites filles du départ, dont la fille du révérend Paris, qui en ont accusé quand même plusieurs. Mais il y a eu 15 personnes en tout. C'est pas seulement des enfants, mais il y a 15 personnes en tout, beaucoup d'enfants qui ont accusé. Et là, dans tout ça, on se retrouve avec des personnes qui ont posé des accusations, des fois, qui étaient très intéressées. Très intéressées. On dit même que la fille du révérend Paris a accusé des gens qui avaient causé tort à sa famille, qui devaient de l'argent à sa famille, qui squattaient leur terrain qui appartenait à la famille. Fait que là, quand on regarde avec le recul, les historiens regardent les accusateurs avec les accusés. Et on trace des liens.
Ben oui, c'est ça, exact.
OK, cette personne-là savait très bien ce qu'elle faisait quand elle accusait cette personne-là. Alors, on se retrouve avec certaines pendaisons qui sont plus que douteuses. C'est carrément des meurtres organisés ou presque qui ont eu lieu. En 2016, Tristan, une équipe de chercheurs qui s'est appuyée sur les documents de l'époque, qui se sont appuyés sur les plans de l'époque, qui ont utilisé la technologie des sonores de profondeur, on a réussi avec des recherches également là, qui ont été faites au début du 20e siècle par le Sidney Perley, qui est un historien et le radar à pénétration du sol, on a réussi à trouver le petit terrain où ont eu lieu les exécutions. Okay. On sait exactement à quel endroit tout ça s'est déroulé.
Ce terrain-là qui est rendu submergé par les eaux.
Non, il n'est pas submergé par les eaux. En fait, là, ce qu'on a dû faire, c'est vraiment pénétrer le sol avec les sondeurs, les sondes, pour être capable de retrouver certaines installations qui sont maintenant enterrées, qui sont rendues sous terre avec les années, évidemment. Et on a réussi à retrouver tout ça. On appelle, c'est un petit terrain qui s'appelle Proctor's Ledge. Et on n'avait pas de potence, il n'y avait pas d'installation de pour pendre les gens.
Mm-hmm.
Il n'y avait pas de plateforme avec une structure pour accrocher une corde. Alors, on dit qu'on on se cassait pas la tête, on accrochait les gens après un arbre qu'il y avait probablement sur place à l'époque. Alors, on les pendait carrément sur après
c'est
un arbre.
C'est quand même macabre.
C'est vraiment incroyable, tout ça. Et ça s'est fait, là, écoute, le 1er mars, on a accusé les premières personnes, on les a emprisonnées. On a emprisonné 48 personnes avant de finalement commencer à faire des procès. Et tout ça s'est terminé en octobre 1692. Alors, c'est entre le 1er mars et le 1er octobre 92.
Hey là là.
Tout ça s'est passé.
Oh, ouais.
C'est très, très court dans le temps, mais ça s'est fait de manière très intense.
Est-ce que cette place est rendue hantée aujourd'hui?
Oui, il y a des gens qui vont dire que c'est hanté. C'est rendu. Il y a beaucoup de gens qui font des pèlerinages, si on veut, qui vont aller visiter cet endroit-là, qui vont aller s'imprégner de l'ambiance de l'époque. Donc, ils vont aller visiter parce que, bon, depuis 2016, on sait exactement où ça s'est passé. Alors, on peut aller visiter la place.
Okay.
Proctor's Ledge, là, qui peut être maintenant là, vu vraiment, là, si on y va comme touriste, là, on peut aller visiter ce coin-là. Les procès de sorcellerie, ça s'achève, comme je disais, là, au début d'octobre 1692. Les accusés qui restent sont progressivement remis en liberté.
Okay.
On a eu 22 décès, on va dire, 19 pendaisons, là, c'est vraiment des exécutions. Les autres, c'est plus... bon, il y en a un, comme on disait, le monsieur avec les pierres, là, ils sont décédés à cause d'eux, mais ça n'a pas été des exécutions comme telles.
Okay.
Donc, 19 exécutions, 22 décès. Et là, tranquillement, à partir du mois d'octobre, on commence à relâcher les gens. On a mis un frein.
À cette hystérie collective.
Là, ça a été, écoutez, ça suffit, là, c'est fini. Tout ça provient de, en fait, là, c'est le clergé de Boston. Clergé de Boston qui dit, là, ça suffit. C'est un dirigeant du clergé, Increase Mather, qui publie Case of Conscience Concerning Evil Spirits. Cas de conscience concernant les esprits maléfiques. On est en 1692, Tristan, et lui, il s'est assis puis il a dit... Ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. Et là, il est membre du clergé, lui, là.
Uh-huh.
Donc, techniquement, on devrait encourager ça parce que c'était contre la chrétienté, ces fameuses manifestations de sorcières-là. Et là, il s'assit et il dit non, c'est fini. Et dans son traité qu'il a fait, là, le cas de conscience des esprits maléfiques, il dit textuellement, là, on est mieux de relâcher 10 sorcières suspectées qui probablement pourraient l'être que d'en tuer une seule qui serait innocente. On est en 1692 et déjà la peine de mort était controversée.
Ben oui, c'est ça, exactement. Mais il y a toujours eu, toujours eu un côté un peu barbare là, de l'humain puis qui reste, peu importe l'époque. Je pense qu'il y a 2000 ans à aujourd'hui, il y a quand même certaines personnes qui vont garder un certain côté...
On va voir de la boxe, Tristan. On va voir du combat extrême, Tristan.
Exactement.
On va voir un match de hockey, puis quand il y a une bagarre sur la glace, on aime ça. Les gladiateurs de l'époque, c'est nos sportifs d'aujourd'hui, mais on a le même comportement comme spectateur que... les gens qui allaient au Colisée à l'époque,
ben, c'est ça,
voir
c'est
un gladiateur se battre avec une épée contre des éléphants, contre des lions, entre eux, on a le même comportement.
Non,
c'est juste que maintenant, il n'y a pas de mise à mort, mais c'est quand même l'instinct barbare de l'humain est encore là. Et à cette époque-là, on dit le quotient intellectuel d'une foule diminue plus la foule grossit. C'était un effet d'entraînement incroyable qui est arrivé et qui a fait que les gens ont accepté ça.
Ben c'est ça.
Les gens ont dit, c'est ça qu'il faut faire.
Ben je reviens un peu avec la Seconde Guerre. Là, quand un pays complet décide d'éradiquer, d'éliminer une population entière, c'est inconcevable. T'sais. Mais encore là, même aujourd'hui, on est en 2020, puis il y a eu des essais nucléaires dans la Corée du Nord. Les humains, la Chine fait des montrent leur armée des défilés incroyables. À quoi sert cette armée? Elle sert à se défendre ou de possiblement
mais ça peut
à attaquer.
Conquérir.
Exactement.
Et on continue à accepter ça, le commun.
Ben c'est ça.
C'est la normalité d'aujourd'hui. Du côté politique, les politiques internationales deviennent de plus en plus un cirque incroyable avec des politiciens ou des dirigeants de pays. Il y a 20 ans, on n'aurait même pas imaginé qu'on puisse avoir des gens qui vont devant les caméras et font des déclarations du type qu'on peut entendre Donald Trump, en Corée du Nord, il y en a plein, le Vladimir Poutine. Il y a plein de dirigeants comme ça qui peuvent maintenant se permettre de dire des choses qu'on devrait même pas être capable d'accepter,
non,
mais
c'est
que
ça.
C'est rendu la normalité parce qu'il y a eu une progression tellement lente. on en est arrivé là éventuellement. Et on vit un peu la même affaire dans un sens où ça s'installe comme normalité de manière tellement insidieuse qu'on le voit plus.
Exactement. C'est ça, comme exactement la chasse aux sorcières de Salem. J'imagine qu'il y a peut-être même des personnes du village que 5 ans plus tard qui se sont dit « Hey, on a-tu vraiment fait
J'imagine qu'il y a dû avoir des cas de conscience assez incroyables pour que le clergé intervienne et dise « Écoutez, nous autres, on vous regarde de l'extérieur, là. Vous êtes une méchante gang de malades. Wow! Arrêtez ça, ça n'a pas de sens. » Pour que le clergé intervienne de cette manière-là, alors qu'on est à une époque où il y avait une espèce de croyance encore qu'une personne pouvait être possédée, qu'une personne pouvait avoir fait un pacte avec le diable. L'Église catholique a été très forte là-dessus pendant très longtemps. On était encore à une époque où ça, c'était des croyances là, qui étaient véhiculées à l'intérieur de l'Église, mais que là, le clergé de Boston dise « Wow! »
Non, c'est ça.
On arrête ça. Dérette là, vous allez les sortir de prison, ce monde-là. Ça n'a juste pas d'allure ce que vous êtes en train de faire. Faut que ce soit rendu grave.
C'est ça.
Mais les gens qui étaient à l'intérieur, c'est un microcosme. Hein, ils étaient isolés. Ils étaient dans un dôme, dans un vase clos là, à 100%. Pour eux, c'était juste normal. Ben, il n'y avait rien de bizarre à ce qui se passait pour eux. Là.
Exactement, exactement. Ben, t'sais, je reviens un peu vite avec les papiers de toilette. Là, mais quand j'ai vu tout le monde partir avec les papiers de toilette avant la pandémie, on dit on est dans un petit village éloigné, tu sais. Je me suis même pas posé la question. J'ai vu tout le monde le faire. J'ai fait moi aussi.
Oui.
Puis c'est après aujourd'hui que je ris de moi-même. Je suis comme, ailleurs, j'ai donc pas d'allure d'avoir fait ça. Mais tu sais, comme tu dis, c'est vraiment l'hystérie collective. Oui. C'est un phénomène.
C'est un phénomène d'entraînement auquel on arrête de réfléchir à un moment donné parce qu'on voit tout le monde le faire.
Exactement.
Ça devient juste normal qu'on le fasse nous autres aussi, qu'on agisse de la même manière, qu'on fasse le même comportement que les autres. Et ça arrive des fois, hein, quand on voit des manifestations, on en a encore là, actuellement, là, à ce moment-ci, des manifestations aux États-Unis pour le Black Lives Matter, pour la brutalité policière. Il arrive des moments aussi où il y a quelqu'un qui va casser, puis là, il y a une deuxième personne qui va casser un peu plus, une troisième personne qui va casser un peu plus, et là, l'effet d'entraînement arrive, et là, il y a des gens absolument pacifique à 100% qui se retrouve en plein milieu d'une vitrine à briser du matériel.
Oui, c'est vrai.
Et que ces gens-là sont comme sortis d'eux-mêmes pendant un court moment.
Totalement.
Ils sont plus eux-mêmes. Mm-hmm. Parce que l'entraînement les a pris. C'est une vague et il n'y a rien qui peut résister à cette vague-là. Et par la suite, quand ces personnes-là retombent sur Terre, ils ont de la difficulté à croire qu'ils ont fait ça.
Exactement.
Ça se peut pas parce que c'est pas dans leur nature. Et ça va être la seule fois de leur vie qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Mais ils l'ont fait là, avec un grand sourire et une avidité incroyable.
C'est ça.
Parce qu'ils sont dans l'effet d'entraînement. C'est le même phénomène qui se répète. Hein? Puis ça s'est fait avant les sorcières de Salem. Et ça se fait encore aujourd'hui. Ça va se faire dans 100 ans aussi. Des effets d'entraînement comme ça, il y en a eu toujours et il y en aura toujours.
Exactement. Et on veut pas... T'sais, c'est fou parce que les sorcières de Salem, je trouve ça curieux, t'sais, que ça date quand même de 1690 à peu près. T'sais, je veux dire, moi, quand tu m'as parlé de ça, les sorcières de Salem, je pensais que c'était vraiment au début de l'époque médiévale.
Non,
là.
Même pas. C'est
chasse aux sorcières, brûlez-la, pendez-la.
Parce qu'en Europe, oui, ça a été sur une beaucoup plus longue période, mais aux États-Unis, ça a été un très court laps de temps. C'est une photo là, dans l'histoire américaine, juste un cliché de cette époque-là, mais ça l'a marqué. Tellement que Witch Hunt fait partie des expressions favorites du président actuel et ça réfère directement à cette histoire-là.
Oh my God, ben écoute, c'est intéressant, je savais pas que ça venait de là.
Hein?
Je savais même pas que ça venait d'une histoire aux États-Unis, à l'époque où les États-Unis existaient là, en Amérique.
Tout le monde, moi aussi le premier, là, avant de m'intéresser un peu plus au phénomène, là, il y a peut-être 10 ou 20 ans, pour moi, les sorcières de Salem, c'était... d'une espèce de village breton quelque part en 1213.
Exactement.
Puis il s'était passé des affaires étranges, puis on croyait encore aux monstres puis aux esprits. Puis... Mais non, c'était juste à côté de chez nous que ça s'est passé, tout près, ben, en fait, à la fin du 17e siècle.
Oh mon Dieu. Ah, c'est fou, ça a peut-être rapidement avec l'actualité, il y a eu un affrontement entre les soldats de l'Inde et de la Chine. Puis à ce qui paraît, il y a eu des affrontements très, très...
ça a été très violent.
Exactement, hein? Super violent. Puis on peut comprendre, on peut déduire qu'il y a eu probablement un peu un même comportement, là, de peut-être pas d'hystérie collective, mais de...
Non, mais ça a commencé quelque part. Hein? Il y en a un peut-être qui a posé un geste et ça l'a fait, ça a été là, la porte a ouvert à ce moment-là et ça a été un déferlement tout de suite après. Là.
C'est ça.
C'est souvent ce qui arrive, là, malheureusement, dans ce genre de situation-là. Écoute, les historiens, Tristan, se questionnent encore au sujet des sorcières de Salem. Qu'est-ce qui a pu faire que ça a pris cette ampleur-là? Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as déjà vu, à un moment donné, on a fait des expériences sociales aux États-Unis, puis je pense en Europe aussi, où on enfermait des gens dans une prison. Mettons, un groupe de 100 personnes, il y avait 50 prisonniers, 50 gardiens.
Okay.
Et on les enfermait. Et là, ils devaient interagir, devaient vivre là, la vie de prisonnier et la vie de gardien.
Ah ouais, okay, okay.
Et complètement isolés du reste du monde. Donc, pendant une période de temps, vivaient à l'intérieur de la prison et devaient agir là, selon le rôle qui leur avait été attribué. Et les gens se sont mis à avoir des comportements étranges, des comportements qui n'étaient pas dans leur personnalité habituelle, qui n'étaient pas des comportements qu'ils auraient eu habituellement. Mais on était isolés. Et à un moment donné, ben, avec l'isolement, s'installe certaines choses qu'à un moment donné, on commence à accepter sans nécessairement le savoir.
Ben oui, ben oui.
Il y a eu des expériences qui ont été faites aussi, par exemple. Moi, je suis le testé. Toi, tu es un comédien. Et moi, le test, c'est de te donner des électrochocs. Et là, je peux gauger, je peux jauger la force des électrochocs. Et plus je mets l'électrochoc fort, plus je suis récompensé. Le testeur, la personne qui est avec moi, me dit « Hey, bravo, hey, là, tu en as donné un pas pire. » Il me fait du renforcement positif plus que je te fais mal.
Okay.
Et je ne suis pas une personne violente, mais avec le temps, après une heure ou deux heures, je vais sacrer ça dans le fond puis je vais t'en donner choc incroyable. Tu reçois pas le choc pour de vrai. T'es un comédien, t'es là pour acter le fait que tu reçois le choc.
Je comprends.
Mais je le sais pas, ça.
Ah ouais,
je suis convaincu que je te fais mal, mais l'autre à côté, il me dit « Hey, ouais, tu en as donné une pas pire.
Tu
vas me dire un autre, là, juste un autre. » Ah ouais, il me fait du renforcement positif et je vais finir par agir là-dessus et te donner un choc incroyable. Et après, souvent, les personnes pleuraient.
Ah ouais.
Ben, j'ai pas fait ça, voyons donc. Hey, j'y ai fait mal. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et la personne ne comprenait pas, mais elle avait fini par agir de la sorte. Alors, le comportement humain dans des situations comme ça est extrêmement difficile à comprendre.
Oui, ben oui, ben oui. C'est surprenant. Y a-t-il d'autres déductions, les citoyens?
Ben, en fait, il y en a eu beaucoup des déductions. On parle du fait que la colonie, les colonies dans ce secteur-là avaient été abandonnées depuis 1630 environ. Là, plus de contrôle royal. Donc,
okay.
On a dompé les colons-là. Et il n'y avait plus vraiment là, de contrôle comme tel. Il n'y avait plus de gouvernement. On était laissé à nous-mêmes. Donc là, on parle de 1630 à 1692. C'est 62 ans. Oui. C'est très, très, très long. Là. Il y a eu des générations là, qui sont nées au travers de ça. Et au travers de ça, on a les attaques amérindiennes qui continuent.
Mm-hmm.
Et la religion catholique, quand est arrivée ici... Beaucoup moins au Québec, parce que bon, c'était plus des colons français qu'on avait, mais on démonisait quand même beaucoup la culture amérindienne. Parce qu'il y avait des croyances très rattachées à la nature, des créatures, on parle aux arbres, on parle à la nature. C'est pas très, très compatible avec la religion catholique.
Mm-hmm.
Ça va pas du tout dans le même sens. Donc, on s'est mis à rendre ça un peu plus... quasiment criminel d'avoir ces croyances-là pour éviter de perdre des gens catholiques à ces croyances-là.
Ben oui.
Et aussi pour justifier de convertir les Amérindiens au catholicisme.
Mm-hmm.
Alors, on a des Amérindiens tout le tour qui les attaquent et en plus, on démonise ces personnes-là.
OK, ouais, je comprends.
Alors là, on peut commencer à dire qu'il y a eu un pacte entre les fameuses sorcières qui amènent le malheur et les Amérindiens qui... eux jasent avec le diable.
Mm-hmm.
En plus, on part d'une antillaise. À la base, la genèse de tout ça, c'est Madame Tituba, qui est une antillaise. Donc, il y a la peau foncée. Les Amérindiens ont la peau foncée aussi. On fait un lien de ce côté-là.
Okay.
Il y a même eu certains chercheurs qui ont dit, ben là, les petites filles, les symptômes qu'il y avait, il y avait quand même des symptômes.
Ben oui, exact.
Est-ce qu'elles faisaient semblant? C'est quand même jeune, 9 ans, là, pour faire semblant sur une si longue période de plusieurs mois. Alors là, on a ramené l'ergot du seigle.
Ah ouais.
Le fameux ergot du seigle qui est un champignon qui pousse sur le blé.
Oui, oui, oui.
Et c'est l'ingrédient principal du LSD.
Puis ça, il y en avait, il faisait plus...
On pense que oui, ça aurait pu aussi contribuer.
Okay.
Et que les petites filles auraient pu être infectées ou contaminées ou intoxiquées à l'ergot du seigle et qu'ils auraient pu avoir certains symptômes physiques à cause de ça.
Hmm.
Et bien sûr, je l'ai mentionné plusieurs fois, on a le fait que cette personne-là, je l'aime pas.
Ouais.
Je vais en profiter. L'effet d'entraînement, c'est accepter que cette personne-là soit considérée comme une sorcière ou un sorcier, qu'elle soit emprisonnée, qu'elle soit pendue. Je veux m'en débarrasser. Je vais le faire. Alors, il y a vraiment des gens mal intentionnés aussi qui ont embarqué dans la parade en toute connaissance de cause, qui ont vraiment accusé à tort des gens.
Profiter,
absolument, pour se débarrasser de des gens.
Fait qu'il y a clairement des innocents qui sont beaucoup... En fait, ils étaient tous innocents.
C'était tous des innocents. C'est ça, ils étaient tous innocents. C'était tous des innocents là, qui ont malheureusement là, été accusés et assassinés durant cette période-là. C'est assez incroyable.
Ils ont subi les conséquences de la folie et de l'hystérie humaine, l'hystérie collective.
Absolument. La première pendue, Tristan, Bridget Bishop, a été pendue le 10 juin 1692.
Okay.
On a eu la dernière pendaison. C'est un homme, Samuel Wardell, Wardwell, oui, pendu le 22 septembre 1692. 92. En fait, là, le 22 septembre 1692, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pendaisons.
Ah ouais.
La même journée.
C'était une journée noire.
Et voilà. Alors, énormément de gens qui ont été pendus là, cette journée-là. J'ai vu, attendez deux secondes, là, Madame Sarah Good et Sarah Brennett qui ont été pendues 18-19 juillet. J'essaie de retrouver là, la dame Tituba, mais malheureusement, là, je ne la retrouve pas dans la liste. Donc, voilà. Et dans tout ça, il y a eu un policier qui a été accusé parce que lui, il a dit « Moi, c'est fini, j'arrête plus du monde. Là. Vous êtes fous.
Okay.
Vous êtes fous, raide. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi, je veux plus participer à ça.
Ouais. »
Et le policier, « T'es un sorcier! Tu veux pas arrêter des sorcières! » Il a été arrêté.
God.
Et il a été malheureusement accusé et trouvé coupable. Il y a un révérend également, George Burroughs, qui a été pendu le 19 août 1692. Un homme d'église.
Ah ouais.
Quelqu'un l'a accusé et on a décidé qu'il était coupable. Alors,
okay,
oui.
Ça allait loin. Là. On aurait pu accuser les dirigeants.
Absolument. N'importe qui. Personne n'était à l'abri là, des accusations. Alors, ça a été une période très courte, mais très intense d'hystérie collective. Et à cette époque-là, ben oui, il y avait des villages et des régions, des colonies qui étaient totalement isolées, qui étaient laissées à eux-mêmes. Et ça créait des situations comme ça, où vraiment, là, c'est difficile hein, quand on s'assoit et on essaye de penser à ça, parce que bon, on se met dans le contexte d'aujourd'hui.
Ouais.
Et là, il y a quelqu'un qui commencerait à vouloir accuser des gens de sorcellerie et qui on verrait nos concitoyens, les gens avec qui on habite, commencer à embarquer dans ça. Il me semble que c'est difficile de se le dire, mais à cette époque-là, la population au grand complet a embarqué. Là. Mais bon, quand la personne s'opposait, comme le policier ou la personne là, qui avait été désignée pour procéder aux arrestations, il a fini par dire « Moi, c'est fini ». Il s'est retrouvé en prison. Lui aussi.
C'est ça. Ça me fait peur, ça, parce que c'est juste, je viens de passer une réalité virtuelle qui n'existe pas, bien sûr. Imagine, Jason, si tout le monde commençait vraiment à croire que la Terre était plate, puis qu'on commençait à accuser les gens qui pensent que la Terre est ronde de théorie, comme du complot, puis que c'est nous, les gens qui croient à la science, qui finalement tombent, genre, confinés en prison parce que les complotistes prennent le pouvoir.
C'est quand même, c'est pas quelque chose qui va arriver. Mais dans l'histoire, c'est des choses qui sont arrivées. Il y a des scientifiques qui tentaient de prouver leur théorie, qui se sont retrouvés comme hérétiques en prison. La Terre tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais à cette époque-là, la religion disait que l'homme était le centre de l'univers.
C'est ça.
Donc ça se pouvait pas.
Hérétique.
Et voilà, alors on se retrouvait comme hérétique et emprisonné et torturé pour changer ses concepts scientifiques pour être en lien avec la religion de l'époque.
Ah, mon Dieu.
Du moins, le pouvoir religieux de l'époque.
Exactement.
Alors, c'est des situations comme ça. Celle de Salem, vraiment, c'est quelque chose, parce qu'à ce moment-là, quand le clergé de Boston a dit « Wow! » Là, on arrête ça là. Ça l'a changé la manière de voir les choses.
Okay.
Ça l'a vraiment... C'est comme si tout le monde avait fait comme « Qu'est-ce qu'on vient de faire là? » Mais comme, pas juste là, dans le secteur, mais partout.
Mm-hmm.
Partout, on s'est comme rendu compte de la barbarie, de la folie qui avait été. Et là, ça s'est su ailleurs que dans le secteur. Hein, ça l'a vraiment... bon, Boston, c'était quand même un grand centre à l'époque.
Oui.
Donc, à partir de Boston, ça s'est su dans les autres colonies, ce qui s'était passé. Et là, on s'est comme, d'un commun accord non dit, préservé de refaire cette folie-là.
Ça n'avait pas d'allure. Tout le monde était d'accord.
Alors, les gens ont fait comme, faut plus jamais que ça arrive.
Ah, c'est ça.
Faut plus jamais que ça arrive. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le puritanisme très britannique et très catholique qui avait été importé dans les colonies a commencé à s'émietter un petit peu. Les Américains sont encore extrêmement puritains, même en 2020, on le sait. Très, très, très... tu sais, on parle dans la plupart des pays, on essaie de séparer l'Église de l'État. Aux États-Unis, la ligne est encore extrêmement floue.
Totalement.
Mais c'est moins que ça a déjà été au moment de la colonisation. Là, c'était vraiment extrême, le puritanisme. Il s'est un peu émietté à cette époque-là. Et ça l'a, on dit, parce que c'est dans le secteur de Boston, c'est dans le secteur de Boston que la Révolution américaine est née, on dit que ça l'a posé les premières bases de la civilisation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cet événement-là a quand même été un catalyseur de la manière de penser qui est devenue très américaine et qui s'est distancée de la manière de penser britannique de l'époque.
Ah ouais. Okay,
c'est beau ça, quasiment comme
ben
fin.
Ben oui, ça a eu un impact sur...
C'est presque positif, Tristan.
Non, non, c'est ça, exactement. Ça a eu un impact sur le développement de la société. Puis de.
Il y a eu une espèce de maturité.
Ouais.
Par la suite, quand je dis tout le monde a comme fait, on est resté saisi, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça l'a amené une certaine réflexion sur qu'est-ce qu'on veut, nous, comme société. Et tranquillement, pas vite, quand la révolution et l'indépendance américaine est arrivée par la suite, on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait et ce n'était pas ça. Ça, on savait que c'était pas ça. On savait pas ce qu'on voulait, mais ça, on le voulait.
On voulait surtout pas prendre ça comme exemple et voilà. Suivre cette manière de
alors,
de
tranquillement, pas vite, ce petit événement-là a quand même contribué d'une certaine manière à la société et à la civilisation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le terme « witch hunt », chasse aux sorcières, qui de base désigne des accusations fausses ou vides ou une enquête inutile, ça réfère directement à cet événement-là, à celui-là de Salem. Et c'est très fort aux États-Unis. Witch hunt ici ou chasse aux sorcières ici, on le dit un peu n'importe comment à la légère. Aux États-Unis, cette expression-là a quand même un sens beaucoup plus sérieux pour eux.
Ah ouais, je me demande s'ils ne l'enseignent pas dans les cours d'histoire américaine.
Si, ça fait partie de l'histoire américaine, l'histoire de Salem, pour expliquer un peu les changements que ça a pu amener dans la manière de voir les choses au début de la civilisation américaine. C'est quand même important comme événement. C'est un événement historique, mais qui a une saveur tellement barbare et un peu paranormale au travers de ça. Et on ne saura jamais qu'est-ce que les trois petites filles avaient à la base pour que les médecins soient pas capables d'identifier. Écoute, c'était peut-être des excellentes comédiennes et qui avaient tellement peur du révérend, du père d'une des petites filles. Peut-être que c'était du fake tout le long. Que c'était faux tout le long. Ce qu'elle
ça allait
fait.
Tellement mal dans le village que ça a pris l'ampleur des débiles.
Il faisait frais, c'était à cause des sorcières. Il faisait beau, c'était à cause des sorcières. Ça sentait pas bon, c'était à cause des sorcières. Il y a toujours une raison.
Ah, c'est fou. J'arrête pas de rire dans ma tête parce que je pense à aujourd'hui, si mettons, quelqu'un dirait aux nouvelles ou quoi que ce soit, pourquoi pensez-vous que cette personne est étrange? Puis là, je crois que c'est une sorcière au bûcher.
C'est un conseil municipal, puis il y a une décision qui fait pas mon affaire. Sorcière! J'accuse!
C'est ça. Le conseil municipal de la ville a décidé d'accuser un tel citoyen pour sorcellerie. Il fait des affaires spéciales dans son garage. Puis,
Ah oui, à l'ordre du jour aujourd'hui, les drôles d'odeurs à Tristan. Serait-il un sorcier?
Ah bon ça. C'était excellent comme sujet, Jason, les sorcières de Salem.
C'est tellement vaste. Écoute, c'est un événement historique et chaque jour de cette période-là, entre février et octobre 1692, chaque journée qui passe démontre la progression de tout ça et chaque journée pourrait quasiment faire l'objet d'un épisode là, les accusations, puis qui a accusé qui.
Il y aura un film
c'était
à faire?
Quoi la relation? Il y en a plein. Si vous faites des recherches, le sorcière de Salem, vous allez voir la quantité phénoménale de films romancés mais aussi de documentaires qu'il y a sur le sujet. C'est gigantesque comme sujet. Et si vous passez aux États-Unis, vous allez dans le secteur de Boston, qui est une ville magnifique et qui est le berceau de la civilisation américaine, vous êtes tout juste à côté là, vous êtes tout près de Salem. Alors vous pouvez faire un petit détour en tant que touriste et dire on va regarder ça sur le GPS.
Deux places à faire.
Chérie, écrit sorcière sur le GPS, là. Écrit sorcière.
Tu vois, Salem, au début, bien honnêtement, là, tu sais, mon côté comme nul en prononciation, je pensais que c'était genre dans le coin du Moyen-Orient. Là, Salem.
Et non, c'est bel et bien un petit village américain qui est maintenant le village de Danvers, D-A-N et non pas D-E-N. C'est Danvers avec un S à la fin. Donc, c'est une petite communauté là, de la Nouvelle-Angleterre, tout près de Boston.
Eh bien, très intéressant. Il fait chaud dans le studio ici.
Il fait chaud.
Tabarouette, canicule.
C'est fou.
On le ressent ici, on est en train de cuire.
Hydratez-vous.
Oui, boire de l'eau. Merci beaucoup, Jason Lévesque.
Ça me fait plaisir, Tristan.
Et puis, comme d'habitude, à toutes les semaines, et là, la fin de la saison 2 va quand même...
Ça approche. On a eu une pause à cause de la pandémie, là, mais
exact.
À un moment donné, on va avoir, je pense que c'est la 14e ou 15e épisode, là, celle-ci. Je n'ai même pas le décompte. C'est 14 ou 15e. Alors, bientôt, là, on va arriver à la fin de la saison 2 on va pouvoir continuer à prendre des sujets. On va se refaire une liste également. On va rafraîchir notre liste parce qu'on n'a pas passé tous les sujets qu'on voulait passer. Alors, encore quelques sujets à venir là, pour la saison 2. Et puis, on va reprendre cet automne avec une saison 3, je l'espère bien.
Ben oui, regarde, on peut le dire, le confirmer. Quoi qu'il en soit, nous serons là
en
automne.
Voilà.
Alors,
à moins qu'on soit accusé de sorcellerie.
Puis il nous en reste en plus. Mon Dieu, c'était donc bien drôle comme,
ben
comme
oui,
ça.
Hein, c'était drôle de bruit.
mais oui, il nous en reste encore une couple d'épisodes avant la fin.
Ouais, absolument. Donc, peut-être 2 ou 3 épisodes encore. Là, on verra ce que le temps nous donne parce que Tristan va quitter physiquement l'endroit où on se trouve actuellement. Mais on va trouver une manière là, de faire, même malgré la distance, de continuer à vous divertir.
Bien sûr. On va être capable en masse de s'organiser.
Absolument. La technologie le permet. Ben, et un petit peu de sorcellerie.
J'ai le goût de devenir un sorcier.
Hey, merci Tristan. Encore une fois, c'est le fun de présenter des sujets comme ça.
Ben oui, écoute, le prochain sujet, peut-être un petit un petit cue.
Je te laisse le scoop.
Ce sera pas une créature.
Ah non!
Donc, on va y aller juste avec, ben. Avec une petite phrase comme ça. Un lieu mythique, peut-être une histoire complètement hors du commun, peut-être les extraterrestres. Je pense que je vais me diriger vers quelque chose de mythique, là, de légendaire, un lieu. Ça va ressembler à ça, c'est comme un truc comme le Stonehenge, j'avais bien du fun à parler de ça.
C'est le fun, parce que souvent, c'est des endroits qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Oui. Le Stonehenge, on peut encore y aller aujourd'hui. Les pyramides, on peut encore y aller aujourd'hui. Alors, il y a plein de lieux comme ça qu'on peut visiter. Et c'est toujours le fun de regarder un peu l'historique derrière tout ça. Parce que des fois, il y a des faits assez étranges qui peuvent se rattacher à ça aussi.
Des choses qui ne sont pas résolues encore aujourd'hui, c'est encore plus le fun.
C'est toujours les extraterrestres, Tristan, tu le sais.
Oui, je le sais, je le sais. D'ailleurs,
les anciens astronautes qui ont tout fait ça.
D'ailleurs, j'en suis un. OK, ça suffit.
C'est une longue conclusion.
Ben oui, c'est une longue conclusion. On veut pas s'en aller.
Ben non, c'est du fun.
Merci à vous d'avoir été là encore une fois. Un rendez-vous à toutes les semaines et ben, bonne journée.
Et oui, partagez, puis aimez notre page, puis faites plein d'affaires.
Exact. Merci encore.
À demain.
Merci Jason.
Bye.
Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Que ce soit votre fourche qui démange ou le tapis de votre salon qui sent le coyote, vous avez besoin de...
La poudre Gold Bound.
Mais saviez-vous qu'en plus,
la poudre Gold Bound
peut servir à une foule d'autres choses, dont... Laver votre pick-up. Déboucher le drain du bain rempli de cheveux. Décaper un meuble en bois, vous pouvez partir un feu. Éteindre un feu. Dissoudre un corps. Épiler une belette. Exterminer une invasion de fourmis. Régler votre problème de pellicule. Changer l'odeur de vos vieilles bottines. Et guérir vos problèmes de transit intestinal.
La poudre Gold Bound.
La poudre, votre fourche ou n'importe quoi d'autre.